VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En Éthiopie, démission du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn, alors que des fractures sont apparues dernièrement au sein de la coalition au pouvoir sur fond de manifestations antigouvernementales. La radio d'État Fana annonce ce jeudi que M. Haïlé Mariam, qui dirige le gouvernement depuis 2012, a posté sur son compte Twitter sa lettre de démission. En Afrique du Sud, le Parlement sud-africain s'apprête à élire le vice-président Cyril Ramaphosa ce jeudi au poste de chef de l'État. Le président Jacob Zuma, éclaboussé depuis des années par les scandales de corruption, a finalement renoncé au pouvoir tard hier soir et obtempéré aux ordres de son parti, l'ANC, qui lui demandait de quitter la présidence. Les détails avec notre correspondante à Johannesburg, Patricia Huon.
Une page se tourne en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a officiellement annoncé sa démission. Dans une allocution à la Nation, il a dit qu'il se voyait contraint de quitter le pouvoir. Il a remercié l'ANC, une organisation qu'il a-t-il dit, servi toute sa vie et continuerait de servir. Il a cependant répété qu'il n'était pas d'accord avec la décision prise par les dirigeants du parti. Néanmoins, Jacob Zuma a fini par dire qu'il respecterait l'injonction de l'ANC et la Constitution. Quelques heures auparavant, dans une interview donnée à la télévision publique sud-africaine, Jacob Zuma avait tenté de se défendre. Il a dit que les raisons pour lesquelles on lui demandait de quitter son poste ne lui avaient pas été communiquées. Il a ajouté qu'il aurait voulu se voir accorder un délai, au moins jusque juin, afin d'assurer la transition. Jacob Zuma se sera obstiné presque jusqu'au bout, mais il a finalement suivi l'ordre donné par son parti. L'ANC n'aura pas besoin de forcer sa destitution par le vote d'une motion de défiance au Parlement. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Afrique australe toujours, la sécheresse continue dans la sous-région et au Mozambique, plus d'un million d'habitants de Maputo, la capitale, ont été privés d'eau potable hier. Le point avec Morgane Guiriec.
Maputo et les banlieues de Matola et Boané ne reçoivent plus que 40% de leur volume normal d'eau potable, a annoncé Casimiro Abreu, un responsable du Centre national de gestion des situations d'urgence. Le barrage qui approvisionne les 4 millions d'habitants de la région n'est plein qu'à 19% de sa capacité. Il a ajouté que l'eau du fleuve Umbelezi est maintenant réservée en priorité à l'agriculture et à la production d'électricité. L'Afrique australe a subi depuis des mois une très forte sécheresse aggravée par le phénomène El Niño. Le Cap en Afrique du Sud est plus gravement affecté. Cette ville est menacée d'une rupture d'approvisionnement d'eau du robinet. Pretoria a d'ailleurs proclamé l'état de catastrophe naturelle dans tout le pays. La Namibie aussi est sévèrement touchée. À cause des mauvaises récoltes, des milliers de soldats sont envoyés en congé en février parce que l'armée n'a plus d'argent pour les nourrir.
Afrique de l'Ouest maintenant, le dialogue politique tant attendu au Togo s'ouvre aujourd'hui. L'opposition et le président Fornia Singbe tenteront de mettre fin à la crise qui a commencé par une querelle autour du nombre des mandats présidentiels. Monseigneur Philippe Fanoukoukbozo, archevêque émérite de Lomé, a dirigé le Parlement de la transition au Togo et il a eu son mot à dire hier au sujet de la crise. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
C'est dans un document de 27 pages que l'archevêque émérite de Lomé demande au chef de l'État togolais, Fornia Singbe, de ne plus se représenter en 2020. Après une analyse de la situation politique au Togo depuis 1990, Monseigneur Philippe Fanoukoukbozo exhorte la classe politique togolaise à ne plus commettre les mêmes erreurs. Ceci étant, l'archevêque émérite de Lomé dit être favorable à la réhabilitation de la constitution de 1992 et le départ de Fornia Singbe à la fin de son mandat actuel.
J'appuie tout ce qu'il demande, qu'il s'en aille. Il doit plus renouveler son mandat. Je ne dis pas qu'il quitte aujourd'hui, non. Qu'on le laisse finir le mandat en cours. Mais en 2020, non. L'entêtement à ne pas quitter le pouvoir, c'est diabolique.
Notons que c'est ce 15 février que s'ouvre à Lomé le dialogue politique sous la médiation du Ghana et de la Guinée. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, au moins 10 djihadistes présumés ont été tués hier dans le nord-est du pays lors d'une opération de la force française Barkhane. Le raid visait le chef du groupe djihadiste en Sardine, le malien Iyad Ag Ali. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les djihadistes et terroristes ont les champs libres dans la vaste zone désertique de Tenzawaten. Mais la matinée de ce mercredi a été fatale pour certains d'entre eux. Parce qu'une opération menée par l'armée française a été signalée à Inagawalex, à quelques centaines de kilomètres de la frontière algérienne. Les bombardements ont débuté aux environs de 4h du matin et ont pris fin à 5h du matin. Il y a eu des échanges de tirs nourris avec des armes lourdes et automatiques au sol. Des véhicules ciblés ont été bombardés. Face à l'intensité des armes, certains djihadistes et terroristes ont pris la fuite. Le bilan est de 10 morts du côté des djihadistes. 3 véhicules, dont 2 pick-up et 1 camion, ont été détruits. Selon des sources locales, les véhicules détruits appartiennent à Nosra al-Islam wal-Muslim Diyad Agali. L'opération de la force Barkhane visait un commandement de ce groupe terroriste qui accompagnait avec ses hommes une cargaison d'armes et de munitions vers un sanctuaire à la frontière Mali-Algérie. Après cette attaque ciblée, la vaste zone de Tenzawaten a été survolée par les avions militaires français qui sont basés actuellement à Tessalit, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, les nouvelles sont bonnes pour les fonctionnaires, du moins si l'on en croit les organisations syndicales. Après une année 2017 marquée par de multiples accrochages avec le gouvernement, la nouvelle année commence sous de meilleurs auspices. Les explications de Théodore Nianiazadi, président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, au micro de Jean-Roger Bion.
À la fin de ce mois de janvier, la plupart des points de revendication ont commencé à être appliqués par le gouvernement, notamment la bonification indiciaire de 100 et 150 points qui correspondent environ à des augmentations de salaire de 23 à 40 000 francs CFA qui ont été réalisées pour les 41 000 fonctionnaires non bénéficiaires d'une grille particulière. Ensuite, le solde des arriérés qui a été à la base de toutes les crises depuis 2013 et point d'orgue de la grève de 2017. Là aussi, le gouvernement a démarré le paiement par les montants les plus faibles, notamment les montants compris entre 1 et 500 000 francs CFA, correspondant à environ 18 000 fonctionnaires, ont commencé à être payés par le gouvernement. Et ainsi de suite, le reste sera payé tout au long de l'année et on reprendra l'année prochaine jusqu'à ce que ces 250 milliards soient apurés.
Apparemment, le gouvernement est allé au-delà de vos espérances puisqu'il a intégré dans les points de satisfaction les journaliers et les retraités.
Oui, oui, c'est cela. On avait également arrêté qu'en 2017, 900 journaliers soient intégrés sur les 1800 concernés. Effectivement, le concours a été lancé en janvier dernier, 2018, et nous attendons, les résultats de ces concours pour que les 900 premiers journaliers soient intégrés. Les retraités aussi, notamment sur la question de la réforme de la retraite qui avait choqué tout le monde, le gouvernement a fait marche arrière et a adopté donc une nouvelle réforme qui a commencé à être mise en œuvre, et notamment plus de 2000 veuves orphelins ont commencé à bénéficier donc des retombées de cette réforme-là. Donc on peut dire que sur l'ensemble des 5 points de revendication que nous avions, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre l'ensemble des points. Notre seule, insatisfaction, c'est au niveau des libertés syndicales, où il y a encore quelques soucis dans certains ministères. Par exemple, certains de nos camarades qui avaient été frappés par des mesures de rétorsion en janvier 2017 lors de la grève, à ce jour n'ont pas encore été réintégrés dans leurs fonctions.
Alors globalement, est-ce qu'on peut dire que l'année 2018 en Côte d'Ivoire sur le front social sera paisible?
Pour nous, en tout cas, puisque nous avons en même temps dans la foulée signé un protocole d'accord portant sur une trêve sociale de 5 ans. Donc, dans cette relation avec le gouvernement, chacun jouant sa partition, le gouvernement ayant commencé à appliquer sa part de responsabilité, notre rôle à nous, c'est de maintenir la paix sociale sur le front social. Et on peut le dire, depuis pratiquement les dernières grèves de janvier, à ce jour, les syndicats ont montré leur responsabilité et le front est calme. Et nous pensons le maintenir ainsi jusqu'à ce que, n'est-ce pas, bien sûr, tout se passe bien.
Théodore Nianiazadi, le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire. Et pour terminer, nouvelle fusillade dans une école ici aux États-Unis. Un jeune homme armé d'un fusil saut semi-automatique a fait 17 morts et 16 blessés mercredi, le jour de la Saint-Valentin, dans le lycée de Parkland, ville du sud-est de la Floride. Le tueur, un certain Nicolas Cruz, ancien élève de ce lycée renvoyé pour des raisons disciplinaires, a été arrêté plus tard dans la localité proche de Coral Springs. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.